Bienvenue dans le podcast de My Green Intérieur. Ici, on aborde des solutions concrètes et durables pour vous permettre de créer des intérieurs responsables. Que vous soyez architecte d'intérieur, décorateur, designer ou tout simplement à la recherche de solutions inspirantes pour votre home sweet home, vous êtes au bon endroit. Je suis Coralie, moi-même décoratrice et architecte d'intérieur depuis 10 ans. Amoureuse de la nature et des grands espaces, je rêve d'un monde où la consommation devient intelligente et la créativité au service de la planète. Vous êtes prêts à faire rimer beau avec durable? C'est parti pour un nouvel épisode! Hello les Greeners! Nouvelle semaine, nouvel épisode! Aujourd'hui, je reçois Flore, ou plutôt Flortje, qui nous vient tout droit des Pays-Bas, mais qui vit en France depuis pas mal d'années, qui est décoratrice d'intérieur éco-responsable et qui a vu l'évolution du marché au fil des années. Elle va nous en parler avec son spectre et nous expliquer un petit peu comment elle a su adapter sa méthodologie, sa communication par rapport à cette évolution du marché. On l'écoute tout de suite, c'est Flortje de Flortje Interiors. Bonjour Flore et bienvenue dans le podcast de My Green Interior. Alors première question déjà, comment vas-tu ?
Bien, salut Coralie, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui.
Eh bien moi aussi, je suis ravie de te recevoir. Alors on se connaît bien toutes les deux. Hein. On pratique le même métier dans la même région.
Ouais.
Mais tu as cette petite différence que tu as commencé cette démarche d'éco-conception dès le départ de ton activité, donc depuis un petit moment déjà. Tu vas nous en dire un peu plus. Est-ce que tu peux te présenter par rapport à ça ?
Donc moi c'est Flore, Flortje, c'est mon prénom, je suis hollandaise, je suis donc décoratrice d'intérieur sur la région Rhône-Alpes depuis un peu plus que 6 ans, c'est ma troisième carrière, c'était ma deuxième reconversion, et puis je suis effectivement dans une démarche éco-responsable, on va dire depuis ma naissance, puisque j'ai grandi aux Pays-Bas, au bord de la mer, où en fait le côté éco-responsable est déjà très développé. En fait, je peux même pas dire que c'est très développé parce que finalement c'est juste inné. C'est puisque on prend toujours tous le vélo, c'est déjà un peu la base de la chose. Je pense que nous on trie les déchets depuis que je suis née. Et donc du coup, c'est quelque chose effectivement qui pour moi est assez naturel.
Ouais, OK. Et du coup, quand tu t'es lancée, alors tu t'es lancée en quelle année en tant que décoratrice, rappelle-moi ?
2018.
Et donc, quand tu t'es lancée en 2018 en France, hein, en tant que décoratrice,
bien sûr.
Comment est-ce que tu as découvert le marché sous cet aspect-là ? Est-ce que ça t'a semblé un petit peu compliqué d'atterrir avec ton passif, je dirais, plutôt écolo à titre perso, dans un milieu qui n'était peut-être pas encore vraiment à ce moment-là dans la partie pro, en tout cas ?
Oui, non, clairement. Ça fait 20 ans que je suis en France. J'ai eu une carrière en finance avant, donc là pour le coup, il y avait pas cet aspect-là. Ensuite, j'ai monté une entreprise d'import-export dans le food, où en fait, j'ai déjà voulu pousser le côté éco-responsable, mais aussi le côté sociable. Donc, j'ai travaillé avec des ESAT, j'ai essayé de travailler avec la farine complète, de travailler localement, etc. Et j'étais assez vite contrainte par plein de choses, par le prix, par l'attitude aussi, forcément, parce qu'à l'époque, et je pense même en 2018, c'était encore pas mal comme ça, on payait plus, c'était clairement plus cher d'être éco-responsable ou bio, on va dire, même si pour les produits que moi je faisais et ensuite pour la déco, esthétiquement ou gustativement, il n'y avait pas forcément un super plus. On est bien d'accord, hein, je généralise un peu. Clairement, moi j'ai toujours mangé des fruits et des légumes bio local, le goût est juste meilleur. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Par contre, quand je me suis lancée effectivement en 2018 au niveau de la déco, je me suis vite rendu compte qu'effectivement, mes habitudes de hollandaise sur ce sujet-là montrer qu'en France on avait quand même encore un certain bout de chemin à faire en disant qu'effectivement le prix n'était pas en adéquation avec l'esthétique, et ça je trouve ça très difficile, je dois dire, parce que le marché a vraiment fait un bond en avant, mais je trouvais ça très difficile à accepter de dire en fait, puisque je veux que ça soit éco-responsable, je dois m'asseoir quelque part sur un parti esthétique. Et ça, c'est difficile,
ouais.
Je trouve.
Oui, complètement.
Et donc aujourd'hui, donc quelques années après, tu penses, enfin en tout cas tu constates que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a des solutions qui peuvent à la fois être belles et bonnes, on va dire. Comment est-ce que tu as pu observer cette évolution? Comment elle s'est faite de ton spectre? Est-ce que ça a été rapide et fulgurant en 2-3 ans là récemment? Est-ce que ça s'est fait petit à petit avec des solutions qui sont apparues au fur et à mesure sur le marché? Comment est-ce que tu as pu observer ça?
Pour moi, c'est assez lent. Je sais qu'on a l'impression que c'est tout d'un coup et que tout le monde en parle et c'est hyper important, etc. C'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. En fait, il y en avait déjà quand j'avais commencé en 2018, sauf qu'effectivement, esthétiquement, c'était difficile. Donc moi, je me préoccupais plutôt aux Pays-Bas que ici. Et c'est aujourd'hui, en fait, dans les 6 ans, j'ai effectivement découvert de plus en plus de marques françaises. Forcément, je suis allée chercher aussi. Mais pour moi, le petit hic, il est là. Ils avancent énormément sur tout ce qui est vraiment beau, même si je trouve que côté luxe, il manque encore, il manque réellement et cruellement du monde éco-responsable. Mais dans la gamme moyenne gamme, haut de gamme, on va dire, il y a eu un vrai développement, mais plutôt sur 6, 7, 8 ans peut-être. Ça prend du temps, c'est juste qu'aujourd'hui, on le voit beaucoup plus parce qu'elle est tout d'un coup, c'est surtout les grandes enseignes qui commencent à communiquer sur tout ce qui est green, washing, je rajoute ce mot-là volontairement, mais eux, ils commencent à communiquer et que donc, du coup, le grand public commence à découvrir. Et là, le grand public, mais c'est comme quand on a tous découvert tout d'un coup ChatGPT. Moi, je ne savais pas que ça existait. Le truc, il existe depuis, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, sauf que tant que le grand public n'en parle pas, on va pas l'avoir. Et moi, j'ai vu ce développement, comme toi d'ailleurs, je pense que sur Maisons et Objets, de plus en plus, il y avait, d'ailleurs c'est déjà fini, il y a eu, vraiment tu pouvais voir les fournisseurs spécifiques qui étaient justement éco-responsables ou qui étaient français et éco-responsables. C'est quelque chose qui se met en place doucement, mais sûrement. Pour moi, c'est pas fulgurant du tout, mais c'est aussi parce que j'ai le nez dedans.
Oui, ok, top. Et alors là, si tu parles vraiment côté fournisseur, hein, de par rapport à cette évolution du marché, donc tant mieux, les solutions fleurissent petit à petit. Et alors côté client, côté artisan, comment est-ce que tu ressens ce marché justement? Parce que on va en parler après sur ta méthodologie, mais j'ai vu que dès le départ, tu as annoncé que tu étais décoratrice éco-responsable, donc à tes prospects, à tes clients, à tout ton entourage pro et perso. Mais concrètement, comment ça s'est traduit depuis la création de ton entreprise jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu as décelé une dynamique récente chez les clients, justement, de par le fait que la décoration écologique est accessible désormais au grand public?
Il faut dire que par rapport à ma positionnement là-dessus, j'ai pas mal rétro-pédalé. Parce que quand je me suis lancée en 2018 en étant éco-responsable, les clients n'en voulaient clairement pas. Pas pour les bonnes raisons. Plutôt pour des raisons, effectivement, encore une fois, d'esthétique et de prix. Donc, à un moment ou à un autre, je me suis dit, mais il faut mieux que j'arrête d'en parler, que je mets ça un peu de côté. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas, mais ça veut dire qu'il y a vraiment cette partie d'apprentissage à faire auprès des clients pour leur faire comprendre, in fine, que oui, on peut être éco-responsable sans que ça se voit. Parce que c'est ça, en fait, dans la tête du client, et largement encore aujourd'hui, un intérieur éco-responsable, ça se voit.
Oui.
T'as fait un truc voilà pour la nature, brrr. Ben non, ça peut être très très beau, mais cette idée est toujours très très ancrée en fait. Et donc sur mon site, j'en parle en 4 phrases. Clairement, j'en parle un tout petit peu sur Instagram et tout, mais beaucoup moins que j'aurais souhaité parce que je me suis rendu compte que le choix d'une décoratrice d'intérieur n'est pas toujours aisé. On va prendre quelqu'un avec qui on a de l'affinité. Et si notre première idée sur quelqu'un est de dire « Ouais, mais bon, elle va nous pousser de l'éco-responsabilité, ça va être plus cher et pas beau », on passe ailleurs. Et il faut aussi que je me paye, en fait. Donc, du coup, il faut aussi que j'ai des clients pour pouvoir justement leur expliquer le côté éco-responsable. Donc, ça, je le fais aujourd'hui et je le sais que, fur et à mesure, puisque je travaille beaucoup du bouche à oreille, c'est cette partie-là aussi qui fait que mes clients, ce que j'appelle en fait mes clients ambassadeurs, ceux qui parlent de moi, vont justement dire à leurs voisins, là où, etc., bah, oui, elle a un côté éco-responsable, mais regardez, ça se voit même pas, c'est génial ce qu'elle fait, elle est top, prenez-la, quoi. Donc, il y a ça, côté des clients, pour les artisans, c'est un chouïa plus compliqué, parce que être éco-responsable en rénovation, là, pour le coup, il y a une vraie démarche et il y a aussi une vraie surcharge de travail. Parce que on peut faire une rénovation normale, entre guillemets, j'ai envie de dire, ben voilà, on met tout à la benne et puis on recommence et puis voilà. Maintenant, si on fait une rénovation éco-responsable, ben pour le coup, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire plus de démarches. Et très clairement, les artisans ne sont pas prêts.
Mmh.
Pour moi. Je parle de, forcément de mon expérience à moi. Comment dire, ils disent qu'ils sont prêts, ils disent qu'ils ont envie. Mais dans les faits, c'est pas ça.
D'accord. Et alors, est-ce que tu as une notion du marché hollandais par rapport à ça ? Est-ce que tu sais un petit peu où ça en est aujourd'hui dans ton pays natal ? Est-ce que les artisans, les clients sont beaucoup plus avancés sur ce point de vue-là ? Comment ça se passe concrètement ? Est-ce que tu as une idée ?
En fait, les clients aux Pays-Bas sont beaucoup plus avertis de ça. Et donc, du coup, les artisans sont obligés de suivre. Justement parce qu'on est un pays en fait, on est clairement un pays qui est en dessous du niveau de la mer. Donc, du coup, nous, on est obligés de bien gérer nos ressources pour pouvoir gérer ce petit pays qui dépend déjà énormément de l'Europe et d'autres, mais qui dépend aussi de la mer et de sa nature. Et donc, du coup, on a beaucoup moins de nature qu'on a ici en France. On a ce niveau de vivre. Et donc, du coup, on est obligé d'y penser en permanence. Ce qui fait que, en fait, le Hollandais aujourd'hui, il est très éduqué en éco-responsabilité. Et du coup, parce que même ici, je pense que ça va être comme ça, plus que les clients sont éduqués, plus qu'ils vont en demander aux artisans et plus que les artisans vont devoir répondre, en fait.
Oui, c'est un petit peu, finalement, l'adaptation de la demande, adapter l'offre à la demande, quoi.
Bah, c'est pour ça aussi, aujourd'hui, les grandes enseignes commencent ils savent très bien qu'ils sont obligés de commencer à avoir une démarche green.
Mm.
La demande n'aurait pas été là. Il est clair qu'ils n'auraient pas communiqué là-dessus. Ils n'auraient pas pris le temps ou le budget ou le marketing pour dire « Tiens, dis donc, on va créer un label » qui d'ailleurs ne veut pas toujours dire quelque chose. on va mettre de l'argent et investir dans un truc. Si ce n'était pas utile, si la demande n'était pas là, ils ne les auraient pas fait. Mais aujourd'hui, la demande, elle est là. Et je pense qu'en termes de… là, pour le coup, côté artisan, on est encore un peu quelques années en arrière où ça coûte clairement plus cher de faire un réno en éco-responsabilité. Mmh. Sauf si tu fais tout toi-même. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus, ça peut devenir beaucoup plus intéressant parce qu'on va travailler avec tout ce qui est récup, etc. C'est génial. Mais trouver un artisan qui est prêt à faire ça et qui sait que ça va lui prendre plus d'heures et donc du coup, forcément, c'est plus cher. Mais c'est quelque chose, effectivement, d'offre et de demande, et qui, aux Pays-Bas, mais d'ailleurs, je parle du Pays-Bas parce que je connais ce pays, mais je sais qu'en Belgique, c'est un peu pareil. Ça monte, et puis ça... entre-temps, j'allais dire, et ça descend un peu. C'est vrai, parce qu'en fait, ça vient d'encore plus de tout ce qui est Suède, Danemark, etc., et puis ça descend, mais ça prend parfois des décennies à s'ancrer.
Oui,
bien sûr.
Donc, on est quand même un petit peu à la bourre sur nos, sur nos cousins européens. Oui.
Mais je vous aime fort. J'ai toujours un peu de mal à critiquer un peu sur cet aspect-là. La France, moi, j'adore. C'est pas pour rien, j'habite en France. Mais il est vrai que, en termes d'écologie, vous pouvez mieux faire. Ouais.
Ça marche. Et alors, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi tu es écolo dans ton métier ? Quelles sont tes bonnes pratiques ? Est-ce que tu as quelques tips à nous donner ?
Je peux parler. Ce que je fais par rapport à mes clients, c'est que j'essaie de faire, quand je commence un projet, je fais pas mal de choses à distance, histoire de... Bon, je peux pas tout faire à distance. Mais quand je peux, je me déplace pas, puisque forcément, c'est un déplacement de plus en voiture. Et puis, j'essaie surtout les amener vers des choses et des pratiques éco-responsables. Donc, ça va être dans le discours, finalement. Et quand je sens qu'ils ont open ou vraiment ouvert à cette discussion-là, je vais appuyer sur le côté éco-responsable de ce que je montre. Et si je sens que c'est pas le cas, je vais pas en parler, mais je vais faire quand même. C'est pas méchant hein, ce que je fais. C'est que j'ai un certain nombre de fournisseurs qui font des choses vraiment vraiment très jolies et qui sont éco-responsables, mais qui sont aussi énormément dans l'air du temps ou voilà. Et donc du coup, une fois que on a fait tous les choix, je leur soumets en fait leur boucle et je mets une petite feuille à côté de chaque produit qui est éco-responsable, uniquement pour dire bah regardez. On a vraiment fait un projet qui vous correspond à 100%. Et pourtant, il y a plein de choses qu'ils ont éco-responsables, qu'ils ont éventuellement de la récup, qu'ils ont, voilà. Et donc, du coup, j'essaye de faire surtout, côté client, cette éducation-là, de dire, bah, on n'est pas obligé d'en parler, c'est quelque chose qui doit être plutôt inné. Et in fine, on arrive à quelque chose de vraiment chouette. Okay. Ensuite, pour tout ce qui est fournisseur, bien évidemment, je l'ai choisi, j'ai quand même choisi les pays avec lesquels je veux travailler. Hein. Donc, c'est les Pays-Bas, c'est la Belgique, la France, l'Italie, Portugal, Espagne. Donc, je vais vraiment essayer de rester autour et puis de choisir des fournisseurs éco-responsables. Et ça, c'est un réel travail de longue haleine, je pense, parce que là, la recherche greenwashing ou pas, déjà, elle peut être assez longue. Parce qu'il n'y a pas que ça, il faut forcément aussi trouver des fournisseurs avec qui on s'entend, avec qui ça marche bien, avec qui les conditions marchent bien, etc. Donc ça, c'est un vrai travail, mais je commence à avoir un carnet d'adresses assez cool à ce sujet-là.
Top. Et est-ce que tu te diriges également vers du réemploi, de la seconde main?
Beaucoup moins que j'aurais voulu.
Okay.
Mais je trouve que, effectivement, mon client n'est pas forcément ultra ouvert à ça. Donc, j'essaie de le faire. Il y a deux façons de le faire. Hein. On peut trouver des produits dans tout ce qui est recyclerie, bon coin, etc. et les insérer dans un produit, dans un projet. Ça, clairement, j'ai pas le client pour.
Ok.
Par contre, si chez un client ils ont un canapé qui tient, qui est super bien, qui tient la route, etc. et je n'ai pas la nécessité de la remplacer, tant que eux peut-être ils veulent, hein, je vais plutôt leur proposer de changer le tissu, de le refaire, en leur montrant que et quand j'avance ces arguments-là, c'est assez marrant parce que généralement il y en a un qui veut dire ouais. D'autant plus que ce canapé, franchement, super confortable, quoi. Mais dans ce cas-là, on peut peut-être les garder. Et puis, on va juste changer le tissu, mettre 2-3 coussins autres. Et dans ce cas-là, on est en aménagement. Donc, peut-être on change le côté, j'en sais rien. Mais pour le coup, ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, en fait, au niveau de ma clientèle. Okay. Garder une table, reponcer un parquet, vraiment garder ce qui est déjà dedans. Et s'appuyer dessus justement pour sublimer le reste.
Et donc on est d'accord que lorsque tu leur prouves qu'en conservant de l'existant finalement tu réduis un petit peu la liste de courses, au final
j'ai réduit aussi les budgets. Bah, du coup ils sont plutôt contents.
Finalement c'est pas si cher la décoration écologique.
ça dépend un peu des honnêtement ça dépend un peu les discussions, faut quand même être assez honnête. Quand on refait un canapé complet en tissu, ça quand même on est à 3 000-3 500 euros. Donc il faut quand même vouloir aussi, parce que c'est pas le type de clientèle que j'ai aujourd'hui, mais que j'avais quand j'ai commencé, et qui disait oui mais bon, chez Ikea j'ai un nouveau canapé à 2 000 balles, donc pourquoi je vais refaire mon canapé à 3 500? Parce que bon, ça c'est heureusement c'est des discussions que j'ai plus parce que j'ai changé un peu de cible des clients. Mais dans ce cas il faut quand même avoir la repartie de dire mais non en fait, parce que le canapé que vous avez aujourd'hui il tient déjà depuis 10 ans, l'assise elle est encore bonne, ça veut dire que tout ce qui est mousse qui est dedans est plutôt qualitative, il y a du bois dedans, sûrement c'est pour ça que ça tient, etc etc, au lieu de dire mais oui bien sûr allez chez Ikea acheter un canapé qui va durer 5 ans quoi.
C'est ça. Et alors, donc là, c'est sur tes process, tes tips, etc. Oui. Mais concrètement, en termes de méthodologie, est-ce que tu as quelque chose de particulier, je ne sais pas, dans la conception des espaces, est-ce que tu réfléchis de manière un petit peu différente, justement, pour te projeter ou projeter tes clients sur le long terme? Est-ce que tu as une méthodologie particulière dans la conception même de l'habitat?
Je pense, j'ai envie de dire je pense pas. Non, je suis énormément dans le dialogue d'abord avec les clients. C'est très important. J'ai une écoute très active qui fait que j'arrive à, une fois que la conception commence, j'ai en fait entre guillemets plus grand chose à faire. J'ai développé une méthodologie qui est très claire pour les clients. Est très clair pour moi, c'est que il y a face au client, j'ai trois phases. Et donc les trois phases, c'est d'abord il y a le premier rendez-vous. Il y a toujours un premier rendez-vous de devis qui dure 30 minutes et que on se parle et on verra si déjà on va voir si on se plaît mutuellement. Ensuite tu fais le devis est signé et je fais et là je vais prendre au minimum 2 heures pour discuter de leurs habitudes, de comment ils vivent, pourquoi ils habitent là où ils habitent, qu'est-ce qu'ils vont dans les espaces qu'on va revoir, etc. C'est très important pour moi. Et puis en même temps, on va choisir quelques couleurs. Et puis j'amène toujours des A4 avec toutes les couleurs que je peux leur proposer. Et pendant qu'on discute, ils vont choisir en fait toutes les couleurs qui leur plaisent. Et dans ce sens-là, en fait, c'est sans réfléchir. Donc, du coup, à finir, on va arriver à 20-25 couleurs qu'ils vont choisir. Et là, pour le coup, moi, je vois déjà là où on va aller. Et puis ensuite, je leur fais un mood board avec 3 photos, jamais plus, par okay. espace. Il y a 3 photos. 3 photos, un luminaire et un tapis, une vase, pas plus. Parce qu'on n'a pas besoin de plus pour savoir, en fait, l'ambiance qu'on a envie de poser. Mm-hmm. Et là, ils disent oui, ils disent non. S'ils disent non, bah, on change 1 ou 2 photos. Et puis, voilà. Ça arrive assez rarement. Et puis ensuite, je mets tout en place et je fais la proposition d'intérieur. Et c'est assez marrant parce que généralement, quand j'arrive chez quelqu'un, je sais exactement ce que j'ai envie de faire. Forcément, ça change avec l'échange qu'on va avoir. Parce que je peux très bien dire, oui, je veux absolument, oh, la table, elle va forcément là. Et ils vont me raconter que, en fait, non. Ils vont peut-être me raconter que la table, ils l'ont mis là au départ et que finalement, il y a tellement le soleil ou le bruit ou le truc ou le machin que je peux pas. Donc, forcément. Mais globalement, je sais ce qui va se faire. Donc, le deuxième phase, c'est que je leur propose effectivement le projet complet et je propose vraiment un seul projet. Je sais qu'il y a pas mal de débats parfois là-dessus, mais c'est ma façon de travailler. Parce que sur le projet que je propose, ils ont quand même le droit de revenir dessus. Et de dire, ben, on change ceci, ça me plaît pas, etc. Mais au moins, je propose d'abord vraiment un projet complet. J'estime que les clients, ils font appel à moi parce qu'ils ne savent pas faire. Je veux pas dire que je sais absolument faire. Si je sais faire quand même. Ma phrase, elle était fantastique. Moi, j'apporte une vraie expertise. Donc, le fait que je lui propose un seul projet, ça veut dire que j'ai quand même déjà passé des heures à dire, mais ils ont dit ça, et donc du coup, il faut que, etc. C'est une vraie réflexion de long terme. Ça me prend du temps. Après oui, qu'on a eu les grosses discussions, moi, il me faut au moins 4 semaines, parfois 5 semaines, pour pondre vraiment le premier gros, la première grosse proposition que je vais faire.
Mm-hmm. Ok.
Et donc ensuite, après, une fois qu'ils sont d'accord, ben on roule ma poule, j'ai envie de dire.
On a à peu près le même process, en tout cas, pas plusieurs APS. En effet, je pense que c'est intéressant de vraiment accompagner le client dans la décision finale, et en tout cas de lui proposer ce qui nous semble être le meilleur projet pour lui par rapport à son cahier des charges. Donc ça, c'est clair que ça fait partie aussi du fonctionnement logique. Alors, après, est-ce que tu parlais tout à l'heure des petites feuilles vertes que tu mets à côté des produits écolos que tu proposes, côté livrable, justement, est-ce que tu as d'autres façons de faire passer les messages à tes clients? Est-ce que tu appuies sur les labels, justement, sur des matériaux écologiques que tu expliques un petit peu plus par mes connaissances souvent du grand public aussi? Comment tu t'y prends en termes de livrable?
En fait, dans le book que je leur propose, à chaque fois que j'estime que c'est intéressant, je mets la petite histoire avec. Par exemple, moi, j'ai une entreprise de luminaires, Luminello, qu'ils ont en Belgique, qu'ils ont éco-responsable. Mais l'histoire de cette entreprise est super chouette, en fait, parce que le PDG, c'est quelqu'un qui avait tout à fait un autre métier avant et qu'aujourd'hui, il s'est mis là-dedans parce qu'il adore les luminaires et puis tout est fait à la main, tout est fait en Belgique, etc. Donc, ça veut dire qu'à la fin de mon book, là où j'estime que c'est pertinent, je rajoute... En fait, l'histoire des différentes entreprises que j'ai placées en fait dans le projet. Il y a Urban Nature Culture qui est une entreprise néerlandaise éco-responsable à Amsterdam. C'est quelqu'un qui c'est une dame qui a mis ça en place. C'est très joli ce qu'ils font et ils ont une démarche qui est très sympa. Et donc du coup, je vais rajouter ces petites histoires comme un petit livre en fait pour leur montrer que oui, je vous propose des luminaires et des vases et des choses absolument magnifiques, mais regardez ce qui est derrière, parce que je pense qu'on va de plus en plus vers ça aussi, on va tendre de plus en plus vers, on veut savoir, c'est ce qui se passe en tout cas aux Pays-Bas, on veut savoir d'où ça vient, qui est derrière, pourquoi ça a l'air de ça, pourquoi ces décisions-là ont été prises. Et donc le fait de mettre ça dans mon book, pour moi ça veut dire que je aide à véhiculer ce message de local, de éco-responsable, mais aussi de cœur de métier, en fait, de cœur pour le métier, il faut dire.
Oui, oui, puis elle est touchée, cette cœur de la sensibilité, de l'émotionnel.
Exactement.
Et pas seulement le choix rationnel d'un produit plus qu'un autre, en fait.
Oui, oui. C'est de dire, mais quelqu'un, vraiment, tous les matins, se lève avec cette envie de créer quelque chose qui va sublimer, finalement, votre intérieur. Et chaque pièce est faite, est réfléchie par une personne, en fait. C'est surtout de dire, mais derrière chaque produit que je propose, il n'y a ni la Chine, ni une énorme entreprise qui sort des produits par milliers. Non, non, c'est des petites entreprises, des gens qui font ça avec leur trip, qui sont aussi entrepreneurs comme je le suis, comme toi tu l'es, qui ont envie de vraiment montrer des jolies choses au monde. Mmh. Et je pense que c'est important de montrer ça.
Complètement. Côté arguments, est-ce que tu as des arguments qui passent plus que d'autres quand tu veux vraiment faire passer quelque chose au-delà de la belle histoire? Est-ce que la partie santé, par exemple, ou peut-être qu'il y a d'autres exemples pertinents qui peuvent fonctionner sur les gens peut-être un petit peu réfractaires parfois à la notion principale d'écologie? Est-ce qu'il y a des chemins de traverse qui permettent de faire passer les produits que tu souhaiterais grâce à d'autres arguments?
Non, dans ce cas-là, il y a l'esthétique.
Ok.
Vraiment. Si effectivement je sens que on est un peu réfractaire au niveau du discours éco-responsable, je fais prôner l'esthétique. Parce que je peux maintenant, en fait.
Oui.
Et ce qui est extrêmement agréable, c'est de dire, bah, regardez, ce tapis, il est magnifique, vous avez vu. En plus, il est tout doux, c'est génial. Très bien. Et puis, à la fin, moi, j'ai mis mon petit faille à côté pour dire, ben voilà, en plus.
Au fait,
juste, excusez-moi, juste pour, voilà. Parce que finalement, je suis embauchée, je ne suis pas embauchée pour leur apprendre l'écologie, je ne suis pas embauchée pour leur apprendre autre chose, je suis vraiment embauchée pour faire de l'esthétique chez eux et de faire en sorte que leur intérieur est fait pour eux, pour leur confort, pour la fonctionnalité, pour l'élégance, etc. Ça, c'est à la base la raison qui m'ont parlé et qui m'ont appelé, finalement.
Top.
Et ça, je pense qu'il ne faut pas que je l'oublie.
Oui, complètement. Je suis d'accord. Oui, l'idée, ce n'est pas de forcément vouloir faire du forcing sur les messages que tu souhaites faire passer, mais répondre finalement comme un cahier des charges avec le bonus de faire passer tes messages.
Exactement.
Et pas l'inverse. Ok. Alors, selon toi, quel est l'avenir du marché de la décoration éco-responsable? On a vu qu'il y avait une évolution depuis que tu as commencé ton entreprise. Et maintenant, on est dans le présent. Comment tu regardes vers l'avenir par rapport à ça?
Il y a deux choses. Je suis assez convaincue qu'on va continuer dans ce sens-là. Dans le sens où l'histoire des entreprises va être de plus en plus importante. On a eu le gros boom de Made in France, qui aujourd'hui, pour moi, retombe un petit peu. Mais il retombe parce que la base a été faite. Et que du coup, tu vois ce que je veux dire ? C'est installé maintenant. Donc, il y a toujours un moment où on en parle énormément pour qu'ensuite, ça devient normal et ça rentre dans les mœurs. Donc, pour moi, ça va juste avancer. Et ça va être de plus en plus normal en fait de regarder d'où viennent mes produits. Maintenant, il faut quand même faire attention. On est dans une période qui est un peu spéciale et on ne peut pas. Et je vais encore parler prix. Hein, on ne peut pas compresser les prix de ces entreprises là. Et ça va être un souci parce que les grosses entreprises, les grosses enseignes aujourd'hui, ils sont toujours de la place pour compresser encore plus et encore plus les prix. Et la conjoncture actuelle, et ça par contre, je ne sais pas combien de temps ça va durer, le fait que tout est beaucoup plus cher, les matériaux sont de plus en plus chers, etc. Ça va peut-être ralentir un peu ce mouvement vers plus d'éco-responsabilité, mais d'éco-responsabilité que j'appelle le côté inné du truc, c'est que je trouve ça totalement normal de le faire. On y va. Je suis sûre, on n'a pas le choix de toute façon. Pour moi, on n'a pas le choix. Je suis désolée, c'est pas possible autrement que d'aller vers quelque chose de plus équitable pour tout le monde, pour la terre, pour voilà. Donc ça, on y va, si on a envie ou pas, et on va y aller tout naturellement. Donc ça va se développer. Il y aura de plus en plus d'entreprises qui vont essayer de se lancer justement avec de plus en plus d'innovation aussi et avec plus en plus d'élégance. Et je le dis encore, et j'espère que quelqu'un m'entend, ça manque cruellement au niveau du haut de gamme, mais je pense que même le haut de gamme va devoir à un moment ou à un autre vraiment s'y mettre et de dire voilà, d'autant plus qu'ils ont quand même un peu plus de moyens de faire les réflexions éco-responsables. C'est vrai. On doit y aller. Je suis sûre qu'on va y aller. Et je pense aussi qu'on va le faire en revenant en arrière. Donc aujourd'hui, par exemple, on voit très bien, hein, à la mode, dans la mode, c'est fou. Je n'ai pas gardé mon jean de mes 18 ans, mais je peux te dire, ma fille aurait pu le porter aujourd'hui tellement que j'étais à la mode d'aujourd'hui. Je pense pour le reste, ça va être pareil. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai un canapé, j'ai un Rolf Benz que j'ai hérité de mes parents, qui n'aimaient pas le tissu qui était dessus, qu'ils ont acheté il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Rolf Benz faisait des canapés prévus pour durer une vie. Là, j'ai changé le tissu parce que, bon, j'ai deux enfants et qui sont, c'est pas des êtres très propres tout le temps, surtout pas quand ils étaient plus petits, donc il fallait changer ça. Donc, je l'ai changé et en fait, le tapissier, il a ouvert et il m'a dit, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un canapé aussi bien fait. Il est vraiment fait pour durer. Ouais. Aujourd'hui, on ne produit plus pour durer.
C'est clair.
Et ça, je comprends, hein, c'est du consumérisme, c'est il faut absolument continuer à voilà. Mais je pense qu'on va retourner tout doucement vers ça aussi, parce qu'on ne peut pas continuer à produire comme on fait aujourd'hui pour la population grandissante qu'on a. C'est pas possible. Il y aura plus les moyens, il y aura plus les arbres pour le faire non plus, il n'y a pas les ressources, etc. Donc ça, ce côté-là, on y va, mais je pense qu'on va obliger avec le temps aussi les grandes enseignes de réellement faire de l'éco-responsabilité. Je pense qu'il y aura, on a eu, mais je pense qu'il y a eu aussi ici en France des émissions qui ont vraiment suivi en fait la filière éco-responsable de certains grands enseignes et qui ont exposé le fait que juste non. Je pense qu'il y a de plus en plus cette culture qui va se développer de dire, mais si tu le dis, montre-moi que c'est vrai. Oui, et c'est pas clair. Par ton propre département de marketing si possible.
Et par ton propre label.
Voilà, ça. Donc, on y va. Avec la conjoncture aujourd'hui, je pense qu'on prend un petit ralentissement dans les fesses.
Et alors, alors ça, c'est, en effet, c'est l'avenir, comme tu le dis. Mais alors, concrètement, est-ce que tu ne penses pas que c'est... Ça paraît un peu compliqué. Comment dirais-je ? On a un mode de consommation qui est quand même assez ancré. Où on a appris que un canapé ça coûtait 1000-1500 euros grand max. On a appris qu'une chaise ça se renouvelait tous les 4-5 ans. Est-ce que tu penses réellement que ça va malgré l'ultimatum qu'on a au-dessus de la tête, hein, je pense notamment à 2050 qui est quand même demain, Est-ce que tu penses que c'est suffisant en termes de délai pour changer cet ancrage fort qu'on a sur notre façon de consommer chez nous, chez nos clients? Est-ce que tu penses que c'est on va réussir à switcher aussi rapidement finalement que la planète le voudrait?
Nous, non. Absolument pas. Je ne suis pas du tout optimiste là-dessus. Nous, non. Nos enfants, oui. C'est pas parce que il faut se rappeler que il y a 50 ans, il y a 60 ans, on consommait pas comme ça.
Oui.
Mais vraiment pas. Et le changement s'est fait sur 50 ans. Je pense que le retour va prendre plus de temps. On va le faire parce qu'on n'aura pas le choix. Mais je pense que l'idée qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Ce qu'on a comme idée de « on n'a pas le choix » d'aujourd'hui est minime par rapport à « on n'a pas le choix » d'ici 50-60 ans. Est-ce que je m'exprime clairement? Je ne suis pas sûre.
Parce que je veux dire... J'ai compris, en tout cas.
Ok, donc ça va. Il y aura un moment où vraiment, tu vois, aujourd'hui on dit « ouais, mais là, effectivement, il faut qu'on y aille. » Et il faut qu'on y aille. Mais c'est sûr. Mais puisqu'on va y aller beaucoup trop lentement, on va arriver à un moment où ça sera plus à nous de décider ce qui se passe.
Oui, c'est une fois qu'on aura les pieds dans le tapis finalement que...
Une fois qu'on est totalement à terre et qu'on se rend compte qu'on aurait dû réagir 20-30 ans avant. Maintenant, je suis pas non plus totalement fataliste. Je sais qu'il y a énormément de gens qui œuvrent pour le changement. De plus en plus. Je sais aussi qu'on a consommé différemment avant. Et qu'il y a les cycles de vie et de décennies qui font que les choses changent. Donc oui, on consomme énormément et certainement pas très responsablement actuellement. Et j'en suis sûre. Si je regarde tout ce qu'on a pu détruire sur notre chemin, c'est honteux. Et ces changements viennent de quelque part et va aussi vers un autre changement. Je suis convaincue qu'il y a un roulement éternel qui se fait, sauf que je suis assez sûre aussi que nous, on va pas le voir.
D'accord, ok.
On va voir que ça va se développer, ça c'est sûr. On va voir qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vouloir effectivement attendre vers un monde un peu différent, un peu plus responsable. Mais aujourd'hui, il y a trop d'argent et trop de grands enseignants en face pour vraiment faire un chamboulement en quelques années.
Ok. Et alors, quel message tu voudrais faire passer à nos confrères, à nos consoeurs qui nous écoutent et qui voudraient justement peut-être faire leur premier pas finalement, ou en tout cas améliorer leur méthodologie dans cette démarche éco-responsable dans le métier?
Continuez déjà, ne surtout pas baisser les bras. Ça c'est évident. La première chose à faire, c'est pour moi, c'est trouver des partenaires et donc des fournisseurs qui nous suivent. Parce que avec juste moi-même, j'ai des arguments, mais si j'ai des fournisseurs qui ont aussi des arguments, si des artisans qui ont quelques arguments aussi, c'est cette expression qui dit toute seule je vais aller vite, mais ensemble on va aller beaucoup plus loin. Je sais qu'on l'utilise souvent, mais je pense qu'il est très pertinent dans ce cas-là. Plus que j'ai du monde dans mon camp pour justement convaincre les clients à aller plus dans le sens d'éco-responsabilité, si je parle que dans mon petit périmètre, plus qu'il y ait du monde autour de moi avec qui je vais discuter de cette démarche et de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, même si c'est minuscule. Tu vois, minuscule, qu'est-ce que ça veut dire minuscule? Minuscule, c'est que ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus, depuis une dizaine d'années, une machine à café Nespresso.
Oui.
C'est minuscule. Mais... si moi je le fais, mon voisin le fait aussi et toi aussi, bah ça fait déjà trois. Et puis forcément, donc surtout pas baisser les bras par rapport à l'énormité de la tâche, premièrement. Deuxièmement, s'entourer par des gens qui ont les mêmes philosophies, même si c'est juste dans des petits gestes du quotidien.
Top.
Et puis voilà, s'il y a des questions, n'hésite pas à m'appeler, quoi. ça me dérange jamais.
Merci Flore. Alors, dernière question pour conclure, parce que tu nous as parlé de ton activité principale, ouais, mais tu ne nous as pas encore parlé de ton propre podcast. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir également?
Ouh, ça c'est une grosse question. Je vais commencer par la première. Effectivement, j'ai un podcast que j'ai lancé en 2020 qui s'appelle Décopreneurs, qui est axé purement sur le côté business des architectes et des décorateurs d'intérieur. Donc ça, je l'ai lancé parce que j'estimais qu'il y avait un vrai manque d'informations pour ceux qui se lançaient dans notre métier. Personnellement, j'ai écouté pas mal de podcasts américains sur le sujet parce que là-bas, en fait, ils parlent ouvertement de comment faire ses prix, comment m'assurer, comment voilà, comment gérer des clients qui ont un peu trop de questions, ce genre de choses. Et ça me manquait beaucoup en fait en France et donc du coup, et pourtant j'avais plein de questions. Donc j'avais commencé par appeler quelques archis d'intérieur pour leur poser des questions sur comment ça se passe et tout. C'était à mes débuts encore assez naïf et en fait j'ai pris la porte dans le nez assez régulièrement. Il n'y avait pas un qui avait vraiment envie de partager ses méthodes de travail, donc je me suis dit ok, dans ce cas là il faudra que je me débrouille autrement. Et donc, j'ai lancé mon podcast au départ avec le seul et unique but, en fait, de dire, je lance un podcast parce que comme ça, je peux poser toutes les questions auxquelles j'ai besoin d'avoir des réponses. Et aujourd'hui, en fait, il se développe très bien. Hein. J'ai 65, 66 épisodes, ça marche plutôt bien. C'est un podcast qui est très bien reçu. Donc c'est quelque chose... je suis assez fière, en fait, de ce podcast.
Tu peux.
J'ai envie de dire... Je suis assez contente de... Et puis, ça reste quelque chose... J'aime énormément le format podcast. J'aime l'échange. Donc, du coup, ça me correspond effectivement parfaitement, cette deuxième activité. Et qu'est-ce que tu peux me souhaiter Oh, on peut souhaiter qu'on continue sur la démarche éco-responsable déjà, dans côté de mon agence, que je... continue à avoir des prospects qui acceptent et qui ont envie d'aller dans ce sens-là aussi, et qu'on peut me souhaiter aussi que d'ici 10 ans, j'habite au bord de la mer.
Ah
Retour aux sources. Retour aux sources. Mais ici, hein, pas là-bas, parce qu'il faut quand même un peu d'été.
Top. Bah écoute, je te le souhaite. C'est peut-être pas en Rhône-Alpes que tu trouveras la
non mer. Non, je sais pas comment j'ai fait pour atterrir en Isère, mais finalement j'y m'y plais.
Top. Bah merci encore Fleur pour tes réponses, de t'être livrée au micro du podcast, et bah écoute, on te souhaite tout ça pour l'avenir, et merci encore pour cet exercice. À bientôt.
Bah, merci à toi Coralie, à très bientôt.
Et voilà, l'épisode touche à sa fin et j'espère que vous avez appris plein de choses, en tout cas que vous avez récupéré pas mal de tips et de tuyaux que Fleur nous a donné. Moi j'aime beaucoup cette idée de faire passer les messages en douceur parce qu'on sait que tous nos clients ne sont pas forcément sensibles ou en tout cas avertis sur le sujet de l'éco-conception. Donc le fait de, par exemple, comme le citait Fleur, mettre une petite feuille verte à côté d'un produit sélectionné pour ses valeurs, ou simplement imposer ses choix fournisseurs à ses clients en allant vers des fournisseurs qui partagent nos valeurs, ou en tout cas qui produisent dans des pays limitrophes, ça permet déjà de limiter la casse et de pouvoir proposer des choses à la fois jolies, esthétiques, fonctionnelles et saines pour le client qui ne le sait pas forcément au premier abord, mais qui va pouvoir le découvrir en bonus dans son projet. Donc ça, je trouve que c'est plutôt des bonnes choses à retenir et à appliquer si on ne le fait pas déjà. Et comme on l'a vu, le marché a énormément évolué depuis quelques années et on a vraiment cette capacité, ce choix aujourd'hui de proposer des choses qui sont en adéquation sur n'importe lesquels de nos projets parce qu'il existe beaucoup de solutions. Et ce serait vraiment une fuite volontaire de notre part de penser qu'il n'existe pas de solution pour nos clients. Donc allons-y. Et voilà, j'espère que cet épisode encore une fois vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez à aller découvrir le podcast de Flore, donc les Décopreneurs. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.